you. Are you racing or watching?
La dispute. Ce soir, les séries. Cette émission est préparée par Aïssa Tundoy, Jean-Christophe Brianchon, Boris Pinot et Grégoire Diffior. Et la prise de son est assurée ce soir par Jean Frédérics. La réalisation signée Daniel Finot. Autour de moi, ce soir, Iris Bray, Olivier Joya, Romain Burel. À notre affiche Engrenage, Nouvelle Enquête. Dirigé par Anne Landois, The State de Peter Kosminski et The Deuce de David Simon et Georges Pelecanos. Se présent également Boris Pinot qui va surveiller en direct le fil Twitter Dispute FC pour donner à entendre vos commentaires. Et puis toujours des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute. Ce soir, des invitations pour la Biennale d'art contemporain de Lyon qui se déroule jusqu'au 7 janvier. Le retour d'Engrenage, toujours un événement, parce que depuis sa première diffusion en décembre 2005, Laure, Tintin et Gilou, les policiers, Joséphine Carlson, l'avocate, le juge Roban, font partie de nos vies. 12 ans et seulement la 6e saison, c'est un sujet qu'on pourra peut-être aborder, même si cette rareté est sans doute aussi le signe d'un processus de travail ambitieux, travail apprécié par 70 pays qui diffusent la série française. Nous avions laissé à la fin de la saison 5 la capitaine Laure Berthaud enceinte avec un couteau dans le ventre. Quel était dû arriver à l'enfant qu'elle portait? La première réponse ne se fait pas attendre dans le premier épisode diffusé lundi dernier sur Canal+. Mais cette 6e saison va nous tenir en haleine jusqu'au bout. On verra que les questions pourront longtemps attendre leurs réponses.
Qu'est-ce qui s'est passé?
On a retrouvé son corps ce matin à Palo, très loin d'ici. Elle a été poignardée.
Oh mon Dieu! Est-ce qu'elle a souffert?
Je pense pas.
Est-ce que on l'a violée?
On ne sait pas. Faut attendre les résultats de l'autopsie pour se prononcer. Nous sommes sincèrement désolés. On a besoin de vous poser quelques questions pour pouvoir démarrer l'enquête.
Comment ça, démarrer l'enquête? Mais je suis allée à la police il y a 2 jours. Je leur ai même donné une photo de Karine. Depuis le temps, quelqu'un aurait dû la reconnaître. La photo, je l'ai laissée à un inspecteur, le lieutenant Gilles Escoffier. Vous n'avez pas diffusé la photo?
Le ravisseur a dû l'enfermer tout de suite quelque part, ce qui expliquerait que personne ne l'ait vue.
Il l'a enfermée pendant 2 jours. Et vous me dites que ma petite fille n'a pas souffert?
Ah, Engrenage, ces corps mutilés, ces familles très décomposées. Nouvelle enquête, ils n'ont pas voulu dire saison 6. Bon, c'est une sorte de joliesse, comme ça, dans la façon d'énoncer cette arrivée. Il faut dire que les saisons, effectivement, sont très longues pour Engrenage, puisqu'on attend toujours en moyenne 2 ans entre chaque saison. Iris Bray ouvre le bal concernant Engrenage.
Eh bien, moi, je n'avais pas attendu 12 ans, puisque c'était la première fois que je découvrais Engrenage. Et oui, j'avoue, j'étais prête à découvrir cette série dont on avait
On attendait le mot qui allait
oui,
venir.
Oui, non,
vous avez un peu hésité.
Oui, je ne suis pas allée dans cette direction. Et donc, non, mais ça a été une surprise, même une révélation de découvrir le générique d'Engrenage qui m'a totalement prise. Et je dois dire que je suis très agréablement surprise, que j'ai eu un attachement immédiat, en tout cas pour le personnage de Laure Berthaud et de Joséphine Carlson.
Pardon, précision Iris, vous avez commencé par cette sixième saison
oui.
ou vous n'avez pas fait du tout de rattrapage?
Je n'ai fait aucun rattrapage.
Non mais c'est intéressant parce que quelqu'un qui n'a jamais vu Engrenage peut commencer.
Vous pouvez commencer, c'est-à-dire que
cobaye.
Moi je ne savais même pas qu'elle avait reçu un coup dans le ventre, moi je l'ai vu à la maternité. Oui, bah, oui, mais bon,
je me disais.
Un coup de couteau dans le ventre. Donc, j'ai découvert cette flic qui venait d'être mère, qui n'avait pas envie d'être mère, sans savoir même qui était le père de cet enfant, sans savoir s'il y avait eu d'autres histoires d'amour avant.
On n'a longtemps pas su qui était le père, je vous résume les saisons précédentes. C'est un peu comme Plus belle la vie.
Hein. Bah, oui, mais ça fonctionne très bien et j'ai trouvé ça vraiment. Enfin, bon, voilà, j'ai pas réussi à m'arrêter dans tous ces épisodes, donc je suis séduite.
Qu'est-ce qui vous a agréablement surprise?
Mais parce que j'avais une vision peut-être d'une série française qui serait un peu vieillot, c'est-à-dire dans des codes un peu de police, etc., qu'on a déjà quand même beaucoup vu, d'avocats. Et en fait, j'ai trouvé qu'il y avait une profondeur dans ces deux personnages féminins. Alors, je sais que tout le monde parle du juge Roban, que j'ai trouvé aussi très bien. Mais moi, j'ai vraiment eu l'impression que cette saison, c'était ces deux personnages qui étaient phares, ces deux personnages de femmes qui, finalement, se croisent et leur interaction génère du drame et donc j'ai trouvé ça absolument passionnant et en fait même l'enquête, je suis totalement rentrée dans l'enquête et donc j'ai trouvé ça en fait extrêmement contemporain même dans sa manière d'aborder des sujets féminins comme la grossesse, la maternité, comment porter un enfant, qui porte l'enfant sans rien dévoiler.
Non mais c'est vrai que la dimension féminine on va dire de cette série date d'il y a longtemps, dès la première, dès la deuxième saison quand Anne Landois a repris l'écriture. Bon, elle n'est pas seule, mais disons qu'elle la dirige. La place faite aux femmes, on a parlé de cette récente vogue d'outre-Atlantique avec ces séries produites par des femmes, incarnées par des femmes, de Big Little Lies, enfin bon, la liste est longue. Et la France n'était pas en retard, Iris Bray. Maintenant, sachez-le, parce que nous qui regardons Olivier Joyard, vous regardez depuis la première saison, depuis 2005,
malheureusement,
ou pas?
Oui, oui.
Comment ça?
Je veux dire, ça date un peu, là. Ça donne un petit peu des indices sur ma...
Sur votre.
Le fait que ça fait longtemps que je regarde des séries.
Enfin, ça va, 12 ans, pas non plus, vous n'avez pas eu le bac avant-hier.
C'est vrai,
c'est vrai.
12 ans, 6 saisons, c'est une bonne petite moyenne pour une série française. Non, je plaisante un peu parce que c'est vrai qu'il n'y a pas tant de raisons que ça qu'on attende 2 ans entre chaque saison d'Engrenage. En même temps, la durée et le fait qu'elle existe donc depuis 2005, ça a été la première série dramatique de Canal, donc c'est quand même pas rien dans le paysage français. C'est une série qui arrivait après les grandes séries américaines des années 2000, qui se posait un peu la question de faire quelque chose de nouveau.
Bah, premier plan de la première épisode de la première saison, je m'en rappelle très bien, ce panoramique qui arrive sur cette benne avec un flic qui est juché et on découvre ce cadavre.
Ouais.
Ah, déjà, découverte de cadavre, bah, ils sont très branchés cadavres.
C'est leur truc.
C'est leur truc, non mais ça a amené quelque chose de nouveau.
Qu'est-ce qui est pourri dans le royaume de France un peu.
Absolument, et de la PJ aussi.
C'est ça.
Et du palais de justice.
Mais quand même, pour revenir à cette idée des personnages féminins dont parlait Iris et dont vous parliez, c'est vraiment, il y a eu Virginie Braque en saison 2, après Anne Landois était arrivée à la saison 3, et là elle est ce qu'on peut rapprocher d'une showrunneuse, vraiment il y a Fanny Herrero également sur 10%, qui se rapproche un peu de ce modèle, et clairement la série porte entièrement sa marque aujourd'hui. Et c'est vrai que je pense que toute autre série policière française montrerait des flics plutôt masculins, ou même masculinistes, je dirais, dans leurs attitudes. Et ici, même les personnages masculins sont
cette saison, des failles aussi.
Roban, c'est une perte de pouvoir qu'il a même corporel. Enfin, il y a quelque chose qui se passe dans l'intérieur de son corps. C'est une saison qui parle beaucoup du corps, de toute façon, puisqu'il y a évidemment les cadavres, comme d'habitude, mutilés. Il y a aussi des femmes qui portent des enfants de manière, comment dire, on les force à les porter. Je ne veux pas trop révéler l'intrigue, mais... Et puis, il y a évidemment les deux personnages principaux, dont l'une est mère d'un enfant, on peut le dire, je crois, très prématuré, qui passe donc son temps en néonat. Donc
ne sachant
quand même
pas si cet enfant va vivre ou mourir.
C'est ça, et ça dure assez longtemps. Et puis, de l'autre côté, Joséphine Carlson, c'est un peu plus tard dans la saison, et c'est son intégrité physique qui est mise en cause. Et à chaque fois, je trouve que ça creuse ça vraiment de manière assez profonde, à tel point qu'on aimerait que la série ne parle finalement que de ça, et des personnages, et qu'on se dit que le reste... c'est pour le fun et l'entertainment, mais au fond, c'est plus ce dont ça parle. Moi, c'est le petit truc qui me fait un peu tiquer. J'ai l'impression qu'il y a maintenant une scène pour l'enquête, une scène pour l'intimité. Alors, parfois, ça se mêle, mais je suis un tout petit peu réservé sur cette question-là, sur cet équilibre.
Ouais, la
c'est plutôt une réserve constructive, j'espère.
Oui, la construction, pour le coup, est parfois un peu curieuse, de fait, dans ces ruptures de ton entre la situation sociale, politique, avec tout ce qui se passe dans une ville imaginaire de la banlieue parisienne. Moi, ils l'ont appelé Cléry-sous-Bois,
ouais,
c'est ça
ouais.
On voit pas du tout ce que ça peut être.
Moi, je pensais vraiment que ça existait, en fait. Très honnêtement, je pensais que Cléry-sous-Bois, c'était une vraie ville du 93, en fait.
Ça ressemble à certaines villes du 93. Romain Burel, vous êtes en Grenage ou pas, vous?
Non. Ah. C'est marrant parce que je reconnais à la série des tas de qualités. La saison précédente m'avait beaucoup intéressé. Je trouvais qu'ils étaient allés un peu au bout de quelque chose, en tout cas dans l'intimité des personnages, leur vie privée, qu'on retrouve un peu dans cette saison-là. Donc j'ai l'impression un peu de repasser dans une redite sur le côté que ça prend beaucoup de place, la maladie d'un des personnages, le rapport à la maternité, donc du personnage de
Caroline Proust.
C'est pas pour moi, je crois que c'est ces séries de policières françaises. Je les trouve toujours filmées de la même manière, en plus. C'est-à-dire que concrètement, il y a un truc d'étalonnage, moi, qui me fatigue. C'est hyper terne à regarder. J'ai l'impression de voir Braco, ça me fatigue l'œil. Je peux pas rester regarder ça plus d'une heure, quoi. Et c'est, je trouve que c'est les épisodes durent une heure, donc en fait, ça me tombe très très vite des yeux, quand même, quoi. Ouais, il y a des choses que je trouve intéressantes, cette façon de montrer et la maternité, et enfin je crois que c'est la première fois que je vois une femme avoir une montée de lait et voir une scène, on la voit très concrètement sur une scène de crime particulièrement sanguinolente se débarrasser du lait qu'elle a en trop, donc ça m'interpelle, je trouve ça intéressant, mais vraiment non. Et puis les enquêtes, je trouve qu'il y a un truc... une crudité sur les corps, etc., moi qui me laisse assez de marbre, quoi, quand on montre ce tronc à un moment donné, parce que bon, très très vite dès le premier épisode, on voit qu'on découvre un tronc avec cette façon de nous montrer la génitalité de ce fameux tronc une fois, deux fois, trois fois pour qu'on l'ait bien compris. Une scène de poursuite dans l'abattoir très sanguinolente, très tripaille, mais on n'est pas chez Bacon non plus pour autant. C'est pas joli à regarder, ça me plaît pas trop. Et puis l'enquête, effectivement, très honnêtement, à part le background des personnages, leur sève personnelle, si je suis très méchant, on n'est pas très loin de séries de TF1, quoi, honnêtement. Moi, il y a des choses qui me rappellent.
Je m'assure, j'en faux
Romain profilage, Burel. Des choses comme ça.
Non, je vais vous dire pourquoi je pense que vous n'avez pas forcément raison, Romain Burel. Je pense que d'abord, il y a une qualité d'écriture que moi, je ne vois pas beaucoup dans des productions françaises. Et surtout une qualité de jeu, et là c'est vraiment une chose assez frappante et évidente dans Engrenage, c'est que la plupart des comédiens sont issus des scènes du théâtre public, il se trouve que je fréquente aussi beaucoup pour mon plus grand plaisir, que ce soit Caroline Proust, que ce soit Gilles Cohen, que ce soit Thierry Godard, que ce soit Philippe Duclos, que ce soit Judith Chemla qui est passée par là, Elisabeth Macoco, enfin Jean-Quentin Chatelain qui était extraordinaire, Anne Alvaro, enfin c'est quand même du très 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 bon niveau de jeu. Et il me semble, enfin, je regarde peut-être moins souvent que vous Profilage ou des séries de TF1, mais je pense qu'il y a une qualité de jeu ici, une qualité d'émotion, une qualité de la situation que moi j'ai pas l'habitude de voir ailleurs. Iris Bray.
Mais j'aimerais justement rebondir sur cette scène du téton, en fait, et cette montée de lait, parce que c'est vraiment, moi je trouve que c'est l'exemple parfait pour montrer que à certains moments on arrive justement à mêler l'intime et le boulot.
Et c'est le moment réussi.
Et ça c'est vraiment le moment réussi, mais qui dit aussi beaucoup de choses, qui dit aussi que peut-être qu'un scénariste homme n'aurait jamais pensé à ça. Peut-être que ce qui est intéressant, c'est pas seulement cette montée de lait, mais c'est le fait aussi que Gilles tout d'un coup aperçoit le sein, et dans son regard et la manière dont est filmé son regard, on comprend que tout d'un coup ce sein de cette femme, ce n'est pas qu'un sein maternel, que ça peut devenir un sein érotique. Je trouve qu'il y a une finesse en fait dans justement les regards, quand ça s'entremêle, ça devient vraiment génial. Et alors, je vois ce que tu veux dire au niveau de l'étalonnage, un peu dans ces gris bureaux des légendes, mais moi, je trouve qu'on est tellement dans une écriture rare, et juste, j'ai l'impression qu'ils vont jamais vers la simplicité, en fait. J'ai l'impression qu'ils ont toujours envie de complexifier les rapports entre les personnes, et à partir du moment où quelqu'un devient un peu trop lisse, il y a quelque chose qui vient dérégler la machine. Et donc, ça me refait penser au générique, de voir ces boulons qui s'entremêlent et qui déclenchent quelque chose dans les uns les autres. Enfin, je trouve que c'est absolument fascinant à regarder.
Olivier Joyard.
Ouais, moi j'étais un peu spectateur de soap, quoi, de voir Lorberto et Gilou donc se rapprocher, comme vient de le suggérer Iris, sans spoiler. Mais ça, c'est quelque chose. Là, pour le coup, la durée d'engrenage, elle joue quelque chose. On les a vus vivre. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est vraiment beau, cette idée qu'une histoire puisse apparaître après 7 ans. Enfin,
alors que bah, je sais pas quel est le temps de la série. Ça a toujours été présent. Il y a eu des moments comme ça.
C'était une ambiguïté, mais là, ça devient quelque chose de construit. C'est comme quand Josh et Donna dans West Wing, dans la dernière saison, se rapprochent finalement. Dans West Wing, c'était décevant parce que ça durait un soir dans une chambre d'hôtel. Là, ça m'a beaucoup plus intéressé. Ça m'a un peu. Je trouvais qu'en fait, on touche le cœur de la série, quoi. En fait, on vit avec des gens aussi longtemps, on les regarde tous les jours, et finalement, il y a quelque chose de. Si ça se passe bien, on se rapproche. Et ça, d'arriver à écrire ça et à filmer ça, je trouve ça assez puissant, quand même.
Romain Burel.
Je trouve pas que la série n'a que des défauts, mais honnêtement, je crois que si on n'est pas fan un petit peu de l'univers policier, si on a vu déjà Braco ou des choses comme ça, et qu'on n'a pas accroché, on n'accrochera pas Engrenage. En tout cas, moi, c'est mon cas.
Ah ouais. Vous comparez vraiment.
Ben, déjà, il y a un truc formel de couleur dont j'ai parlé déjà qui est vraiment très présent et qui me pose des questions parce qu'après on va parler de deux autres séries où là par contre bon, il y a des efforts sont faits sur cette dimension-là en fait. Je pense à une série qui a été diffusée récemment sur Netflix, qui est encore disponible, qui s'appelle. Dites-moi le nom.
C'est-à-dire qu'on n'est pas dans votre cerveau.
Ozark.
Voilà. Qui est ultra bleuté, etc. Ouais. Où il y a un vrai travail.
Ultra ennuyeuse aussi.
Bah, je suis pas d'accord, mais mais en l'occurrence, il y a un vrai travail sur l'image, etc. On parlera tout à l'heure de Deuce, où c'est pareil. Il y a un vrai travail sur l'image. On est sur des jaunes, tungstène, etc. Et là, franchement, très honnêtement, c'est quelque chose. Qu'on vous regarde. Une série française, quoi. C'est ça, dès la première image, on sait qu'on est en France.
C'est pas la question française, c'est la question. Il y a aussi le quotidien de la DPJ du 19e arrondissement qui n'est pas forcément dans les couleurs extrêmement tungstène, Romain Burel. Donc c'est là aussi une réalité quotidienne, des bureaux qui sont sales, des meubles qui sont moches.
Et de
c'est
Paris
comme ça.
Qui est gris.
Et de Paris qui est gris.
Alors qu'il n'y a pas que gris.
On n'est pas sur Times Square, là. On est dans la Claire et Sous-Bois, je rappelle.
Je reconnais une vraie virtuosité à la série, par contre, c'est d'arriver à nous faire partager un jargon pas toujours évident, mais en fait sans que ce soit excluant, quoi. Je trouve que ça, par contre, c'est vraiment bien fait, qu'on est dans ce vocabulaire de flic sans s'en sentir exclu. C'est assez bien
et
fait
juridique.
Et bien. Ouais, c'est assez
juridique.
Bien mené. Vraiment, ça c'est vraiment intéressant.
Oui, c'est vrai que la dimension, on va dire pénale ou justice et juridique est moins importante parce que les deux personnages, disons, qui fréquentent le palais de justice dans cette saison 6 sont un peu empêchés pour différentes raisons qu'on ne dévoilera pas. Mais c'est vrai que ça faisait partie aussi des questions de procédure. Il y a un avocat qui était présent dans les précédentes saisons, qui n'est
la
plus là.
La procédure, l'institution,
c'était et des rouages là aussi très très grippés de la mécanique judiciaire française. Ouais. C'était vraiment des choses très bien explorées, très bien documentées. Avec des couleurs qui étaient plutôt dans les marrons, vous voyez, pas de justice et boiseries, hein, Romain Burel. On a moins cette dimension-là cette saison parce qu'on
vous
est sur
Olivier.
Je parle de la boiserie et du marron à Romain, pardon, mais c'était bien à vous que je m'adressais sur la dimension documentée quand même de cette série.
Il y a une dimension documentée, mais il y a quand même un point de vue qui est quand même le point de vue du pouvoir, je pense. Hein. Je trouve c'est un peu ce qu'on peut discuter sur le fond idéologique d'Engrenage éventuellement. On est, par exemple, si on compare aux grandes séries de type The Wire qui nous disent que les flics et les voyous vivent dans le même monde et que finalement l'altérité elle se joue sur d'autres choses mais qu'on n'est pas dans les bons et versus les méchants. Là on est, il y a des flics corrompus dans cette saison, donc c'est plutôt quelque chose d'intéressant. Mais par exemple, à un moment, ils vont pour une enquête dans un camp de Rome et il y a des manifestants devant ce camp qui essaient de défendre les Roms, et ils sont vraiment traités par la fiction, hein, je veux dire, comme des moins que rien, des espèces de tarés qui n'ont pas réfléchi à ce qu'ils font, alors qu'on les
fait travailler
les flics tranquilles. Ouais. Voilà, c'est ça. Ça m'a un tout petit peu dérangé, parce que je trouve que la série, pour être la grande série sur la France d'aujourd'hui, elle l'est par bribes, et elle n'arrive pas à faire toute la carte, quoi, avoir vraiment un point de vue plus... C'est quand même une série sur des flics pour des flics.
Oui, c'est quand même les bons et les méchants, même si, là, je refais le résumé pour Iris Bray, dans les précédentes saisons, Gilou, il était quand même dans quelque chose d'assez poreux, entre le légal et l'illégal, et il y a eu plusieurs allers-retours assez intéressants. Là, il y a une petite incursion aussi, on va dire, dans cette nouvelle saison, mais ça a été beaucoup plus loin de son côté, par exemple. C'est vrai que le personnage était plus ambigu.
Oui, il y a eu une plus grande ambiguïté et c'est juste qu'au bout d'un moment, ce n'est pas ça bute sur quelque chose. On sent qu'ils n'ont plus envie d'aller trop dans ces directions-là et que ça pourrait faire vaciller un peu le système de la série. Et moi, j'aime bien les séries qui se remettent un peu en cause et j'aurais envie que ça explose un peu.
Alors, il y a une vraie remise en cause, puisque Anne Landois a dit que c'était sa dernière saison. On avait annoncé que la saison 7 serait la dernière, mais comme il y a une nouvelle équipe d'auteurs, on se dit que peut-être ils ne vont pas faire juste la dernière saison, ce qui serait un peu curieux. Donc, incertitude. Pour l'instant, c'est la saison 6. Il y aura une saison 7, ça c'est sûr. 8, 9, avec ou sans Romain Burel, mais avec Iris Bray. C'est ça qui est important. Il y avait une petite réaction, Maurice Pinault, concernant Engrenage.
Christelle Pénicaud-Bernal, fervente spectatrice d'Engrenage depuis le départ, indique sur Facebook que la série, avec cette nouvelle saison, est toujours aussi passionnante et les acteurs sont vraiment excellents. Pour moi, dit-elle, c'est la meilleure série policière française.
Et toc, Romain Burel. C'est pas moi qui l'ai écrit, c'est pas un pseudo, hein, mais je partage pleinement l'avis de cette auditrice. Engrenage, nouvelle enquête. Saison 6 pilotée par Anne Landois depuis le 18 septembre sur Canal+.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
Suite de cette dispute série, alors avec une mini-série en l'occurrence, 4 épisodes d'une heure ou à peu près pour The State, réalisé par Peter Kosminski, à qui l'on doit notamment Warrior sur la guerre en Bosnie, plus récemment, j'ai oublié le titre de la série sur la cour du roi Henri VIII, c'était...
The Wolf, non
The Wolf, merci. Merci Olivier Joyard. Cette fois-ci, il s'agit de suivre donc 5 jeunes Britanniques qui décident, je dis 5 parce qu'il y a une mère et son fils, donc ça fait 5, pas 4. 5 jeunes Britanniques qui décident de partir en Syrie pour rejoindre l'État islamique.
L'Islamic State is the state of the Muslims and we are responsible for making it grow and flourish.
Welcome. I can't believe we're here, bro.
You pay no rent or bills. You get your food and drink each month at no charge.
This house is for the new arrivals, yeah?
Anything you need, we can get.
There's no easy way to tell you this. I'm in Syria.
I'm a doctor. I want to work in the hospital in Raqqa.
That'll depend on your husband when you marry.
What are your skills? I've come here to fight, I see.
Allah loves those who take care of their duty.
No child is too young to prepare for what is to come.
I don't want him prepared, okay?
Our path has been laid down, and we are following it step by step.
You shouldn't believe everything they tell you.
4 young Britons journey into ISIS.
You are brave. You will not run away.
From Golden Globe and BAFTA-winning writer-director Peter Kosminski, The State.
Peter Kosminski qui a fait The Wolf, Wolf Hall. C'était ça le titre tout à fait complet. Alors, cette série, elle a déjà été diffusée, mais elle est disponible en VOD sur Canal+, jusqu'au 29 octobre. Canal+, ou Arte ?
Canal+.
D'un coup, j'avais un petit doute. Merci de rectifier. Tiens, Olivier Joyard, comment c'est donc ? Compliqué, The State.
Grand sujet. On attendait tout à l'heure aux informations qu'un jeune de 18 ans avait été arrêté en Angleterre pour avoir participé à un attentat dans le métro de Londres la semaine dernière. Donc on voit qu'on est dans un sujet ultra brûlant parce que c'est des djihadistes occidentaux qui arrivent en Syrie pour participer à Daesh. Et donc grand sujet et je dirais petite série. Enfin, c'est un peu ce qui m'a frappé. C'est-à-dire que on a très très envie de voir ça. La première question qu'on se pose, c'est tiens, est-ce que des djihadistes, ça fait des personnages de série ? Est-ce qu'on a le droit de faire ça ? Est-ce qu'il y a une question morale là-dessus ? Et finalement, la série à la fois nous convainc très vite que oui, ça vaut le coup, qu'il faut regarder ça. Mais finalement, c'est comme si elle rétro-pédalait en cours de route. C'est-à-dire qu'elle elle montre au fond des personnages qui sont... alors ça parle de ces jeunes qui arrivent en Syrie, ils s'installent. Moi, j'aime bien le premier épisode. Je trouve ça, c'est celui qui a le plus choqué, je crois. Parce qu'il y a eu une certaine polémique en Angleterre où les gens disaient « mais c'est pas possible de montrer l'État islamique de cette façon-là » parce qu'on arrive et...
C'est le paradis.
Ouais, c'est ça. Il y a une piscine, il y a pas bien des femmes, tout le monde rigole. C'est Club Med de
on mange Daesh, bien, on rigole. Voilà.
C'est comme s'il y avait une sorte de, pour le coup, d'ultra banalité en fait. On arrive dans un club de vacances où tout le monde a à peu près les mêmes idées. Et la série finalement ne creuse pas trop cette chose qui est horrible, puisqu'en même temps on passe de ça à l'horreur. Elle garde des personnages qui sont, comment dire, qui pensent comme nous. C'est-à-dire que moi j'aurais voulu voir des personnages qui ne pensent pas comme moi, qui me font peur, qui m'effraient. Or, tous ces jeunes Britanniques sont quand même dans une, ils ont une relation, quand ils arrivent, ils sont surpris. Il y a une jeune femme médecin, elle s'étonne qu'on la laisse pas exercer. Il y a plusieurs choses comme ça. Un autre qui se rend compte que finalement, les atrocités, quand même, c'est pas terrible. Donc, moi, ça m'a un peu laissé sur ma faim de ce point de vue-là. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'il prend un sujet aussi important pour faire une série qui ressemble à une autre série? On a entendu les sons, là. C'est les sons de n'importe quelle série anglaise bien faite. C'est pas du tout la question de la série, hein, de The State. C'est bien fait, c'est une série anglaise de base. Mmh. Et plus que de base, c'est Peter Kosminski quand même. Mais
voilà, par rapport au sujet, c'est ça le problème.
Le sujet, on a envie de voir quelque chose qu'on n'a jamais vu. On a envie des revenants de David Thompson en série, quoi. Mmh. Et là, on se retrouve avec, franchement, une sorte de soap chez les islamistes radicaux. Qui juste, voilà, ils jouent au foot avec la tête de quelqu'un qu'ils ont décapité, quoi. C'est ça qui est glaçant dans la série, mais ça va pas beaucoup plus loin que ça.
Mais Romain Burel, d'ailleurs, vous parliez du background, on va dire du passé, donc des personnages. Là, l'un des problèmes de State, me semble-t-il, c'est que ces jeunes gens qu'on va suivre dans leur arrivée pour rejoindre l'État islamique, alors, on va avoir des mini-clés de pourquoi ils sont là, mais enfin, et encore pas tous. Et du coup, il y a un problème vraiment de relation du spectateur, me semble-t-il, à ces personnages, qui restent tout à fait de notre côté, c'est-à-dire qu'on voit très vite qu'en fait, ils vont pas adhérer, même s'ils sont très contents d'arriver. Mais on sait pas pourquoi ils sont là, et on sait pas pourquoi ils vont pas adhérer, du coup. Enfin, il y a un problème de point de vue là, Romain.
Clairement. Dès le premier épisode, je m'attendais à ce qu'on rétropédale justement un petit peu sur leur passé, qu'on ait un petit peu de clés pour savoir comment ils en étaient arrivés là. Parce qu'en finalement, moi, c'est la seule question qui m'intéresse. Comment on en vient à rejoindre, à faire des kilomètres, à brûler son passeport et
alors, à partir sans prévenir personne.
Exactement. Et à aucun moment de la série, on a ça. On a quelques bribes sur un grand frère éventuellement qui serait là, etc.
Oui, le coup du grand frère, il y en a un qui part parce que son grand frère est parti. Oui, mais pourquoi son grand frère est parti?
Exactement.
Et voilà. Non mais ça repousse.
On peut poser la question longtemps, effectivement, comme
et
ça.
Et on découvre cette naïveté dont je suis sûr qu'elle peut être réelle quand on débarque dans un enfer comme ça, même si l'enfer au départ n'a pas l'air d'être un véritable enfer. C'est assez dérangeant, comme sur tous les épisodes, de se dire à aucun moment on ne sait vraiment pourquoi ils sont là. Et du coup, ils semblent déchantés. On se dit, bah oui, effectivement, mais tu t'attendais à quoi? Ce côté Club Med qu'on voit dans le premier épisode va même plus loin, parce qu'il y a un moment donné, on les voit dans des cuisines. Même moi, j'ai pas une cuisine comme ça, quoi.
Vous?
Ah oui, clairement, on est chez Missouri Lane, quoi. Ils ont des cuisines équipées et ça déborde de bouffe.
J'aimerais bien voir votre cuisine.
C'est un petit peu étrange. Mais effectivement, ce manque de sève, en fait. Moi, je trouve les personnages archétypaux. C'est-à-dire que, concrètement, je pense que Peter Kosminski a fait un énorme travail de documentariste, etc., pour se renseigner. Je sais qu'il y a énormément de scènes qui ont déjà été racontées, notamment dans un des journalistes du Guardian, et qu'il y a beaucoup de choses qui sont réel, mais qu'à un moment donné, en se disant je me saisis d'un sujet si chaud, si brûlant, il faut que je sois exact sur beaucoup de choses. Moi, je ne sens pas la fiction, je ne sens pas en fait la réalité des personnages, je ne sens pas leur parcours, et du coup, je n'y crois pas en fait. Et c'est dommage parce que la série, pour le coup, moi, je pense que vraiment, c'est un vrai sujet et c'est vraiment intéressant de se saisir. Et c'est quelque chose que je reproche souvent aux séries, notamment françaises, c'est de pas avoir ce culot et de se dire allons-y en fait, saisissons-nous de ces questions, même si elles sont excessivement épineuses, etc. Maintenant, bon, je salue de l'avoir fait, c'est-à-dire que typiquement, je me dis que c'est intéressant d'oser. Maintenant, la série me laisse vraiment sur ma faim et dès le premier épisode, moi pour le coup, le premier épisode est celui qui fait le plus riche parce que très très vite, on est sur des plans très très resserrés pour éviter de voir que justement on manque de décor, etc. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, ça fatigue aussi l'œil très facilement.
Vous avez l'œil qui fatigue vite, hein, Romain.
Mais mais c'est vrai.
Faut arrêter le métier là.
Quand on se saisit d'un tel sujet, évidemment, il faut pouvoir montrer la série aussi et là très très vite on.
Espagne, évidemment, ça réduit les plans en série. Iris Bray, sur The State.
J'ai l'impression que la série ne s'empare de rien, en fait. Je trouve qu'il n'y a pas justement de geste, pour moi, héroïque en disant qu'on va faire une série là-dessus. C'est-à-dire que si on se place du point de vue du monstrueux, ce qui est toujours fascinant et qui demande un certain courage, mais là, à aucun moment, on est vraiment dans les yeux du monstrueux ou de ce qui peut être monstrueux, parce que qu'on vous parlait des cinq personnages du premier épisode. Mais très rapidement, on se resserre sur les deux personnages qui ne sont pas heureux d'être là. Et on perd totalement de vue.
La femme médecin et le jeune homme dont le frère est mort.
Voilà, est parti et mort. Donc finalement, on n'est plus jamais dans une dichotomie ou dans quelque chose qui pourrait se complexifier. On est tout de suite avec ceux qui trouvent ça horrible et on, finalement, on remet...
Tu dis, oh, j'aurais pas dû venir.
Mais voilà. Ah tiens, mon enfant est en train de jouer avec une tête d'un homme qui vient d'être décapité. Ah bah zut alors. Non, mais c'est-à-dire qu'on a l'impression que cette naïveté des personnages est aussi une naïveté du point de vue du créateur. On se demande qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on n'aille pas un peu plus loin que ça.
D'ailleurs, la facilité avec laquelle le jeune garçon adhère, de la même façon, c'est pas du tout traité. C'est-à-dire qu'il arrive là, il est quand même embarqué par sa mère, il sait pas où il va, il a un petit peu peur au début et... En l'espace d'une séquence, tout d'un coup, il a complètement adhéré visiblement au djihad.
On se dit qu'on a raté une scène.
Oui, on a raté une scène. Bon,
mais et en fait, moi, j'ai limite eu l'impression de voir The Handmaid's Tale quand leur mari meurt et qu'elle dit « Mon mari est mort en martyr » et que l'autre lui répond « Félicitations
».
Tout ça filmé comme si c'était totalement normal. Je veux dire, autant...
Praise be the Lord.
Ouais, c'est vraiment ça, j'attendais ça. Et à ce moment-là, c'est-à-dire que quand
ils disent la même chose.
Oui, mais c'est-à-dire que quand c'est traité vraiment dans un... Quand c'est vraiment traité comme dans The Handmaid's Tale, je trouve ça fascinant. Sauf que là, finalement, ça n'est jamais traité.
Romain Burel.
Je trouve peut-être, alors si je dois venir en défense un petit peu de la série, je trouve le point de vue des femmes plus intéressant, en fait, mieux traité que celui des djihadistes moujahidines masculins, en fait. Je trouve qu'on a quand même deux caricatures, à la tête, là.
Yam Abbas, la pauvre qui joue dans toutes les productions anglo-saxonnes, qui fait la méchante, arabe de service. Donc, et puis l'espèce de nanny.
Oui, mais je trouve qu'elle est. Cette envie d'aller soigner. J'ai l'impression qu'en tout cas, ça me paraît plus réel, plus plausible, je peux me projeter beaucoup plus dans ce personnage féminin qui a envie d'aller soigner. De femme médecin qui a envie d'aller soigner à tout prix.
Mais c'est pas bien renseigné, quand même.
Mais je trouve, les questions concernant le voile, etc. C'est très didactique, ça, c'est très, 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 très fatigant pour le coup. Mais je trouve l'univers féminin plus intéressant que l'univers masculin qui me tombe des yeux, encore une fois, parce que on a vu ça traité dans plein de films de guerre et c'est toujours de la même manière, en tout cas.
Mais la naïveté, c'est une chose, la documentation, c'est une autre, mais quand même, il y a un fait qu'on peut dévoiler sans en dire trop, c'est qu'il y a un personnage masculin qui dévoile son homosexualité à quelqu'un qu'il connaît à peine. On est dans l'État islamique. Vous pensez vraiment une demi-seconde que ce soit crédible, Olivier Joyard ?
Non, j'ai pas trouvé cette scène très crédible.
D'où
j'ai
ça
trouvé,
sort ?
En plus, ça fait vraiment le petit truc dramatique pour vous dire.
Ouais.
Vous voyez, il y a des homosexuels chez Daesh au cas où vous n'étiez pas au courant, mais c'est une information qu'on donne aux spectateurs presque comme une sorte de gag. Enfin, je sais pas. Moi, ça me choque beaucoup.
Mais moi aussi.
Et en fait, la série, plus j'y pense, plus ça m'énerve. Donc,
allez-y, Olivier.
C'est quand même une. Ça me fait penser à le. Il y a quand même un sujet. La phrase de Valls, là, expliquer, c'est déjà excuser.
Ouais.
Et en fait, il est presque d'accord avec ça, quoi, parce qu'il explique rien, Kosminski. Donc, c'est comme s'il avait peur de toucher ce qu'il brûle, quoi, à un moment. Et moi, je me rappelle du film de Faucon qui s'appelait La Désintégration, qui était une sorte de prequel. Donc, enfin, c'était
radicalisation de jeunes gens.
C'est ça, c'est sur deux personnages en France qui allaient commettre un attentat en Belgique, je crois, il me semble, ou au Luxembourg, mais. Ou à Strasbourg, je ne sais plus.
Ouais, j'avoue que le film date d'il y a quelques années, on en avait parlé ici, bien sûr. Ouais.
Et au moins, Faucon nous disait qu'il ne savait pas exactement ce qui se passait, qu'il n'y avait peut-être rien à comprendre, mais qu'il fallait regarder comment ce rien à comprendre s'incarnait. Quoi. Et là, on n'est pas du tout... Enfin, voilà, pour moi, c'est vraiment le degré zéro de la réflexion politique et sur les images. Quoi.
Ouais, zéro complexité.
Quelque chose d'aussi important que ça, c'est quand même...
Un peu irresponsable.
Légèrement, plus
au final.
Pense, plus,
ouais, je m'énerve en même temps que vous. Iris Bray.
Moi aussi, je peux m'énerver aussi. Mais oui, je trouve que... C'est-à-dire que le geste politique, ou en tout cas subversif, aurait été qu'on soit avec, par exemple, cette femme médecin et qu'on comprenne et qu'on la suive et que finalement, elle s'habitue ou elle s'acclimate et qu'on parle de son fils qui, en quelques heures, finalement, comprend et s'intègre. Mais oui, mais c'est ça qui est intéressant. Ouais. C'est pourquoi est-ce que ces personnes-là, tout d'un coup, basculent et y restent au lieu d'être avec des personnes qui ont envie de partir. Donc oui, je trouve que c'est... C'est comme s'il avait voulu faire quelque chose et que tout d'un coup, il s'était plus senti d'attaque et qu'il avait eu peur. Il y a vraiment cette notion de peur. J'ai l'impression qu'il n'a pas envie d'aller jusqu'au bout de son histoire et voilà.
Et c'est si on le critique aussi fort, hein, rappelons-le, Romain Burel, c'est que Peter Kosminski, c'est pas n'importe qui et qu'il a fait montre dans d'autres, sur d'autres sujets, ben, d'un réel talent d'affronter des sujets d'actualité en documentant et en faisant des choses autrement. Là, il n'y a pas de complexité dans The State.
Je pense qu'il manque d'un personnage qui épouserait absolument.
Il y en a un, on le voit pas.
Oui, mais voilà,
on voit à peine.
Il y a des personnages secondaires qui sont pas beaucoup exploités non plus.
Tout d'un coup,
et
bon,
c'est ça, je pense qu'on manque d'un personnage qui lui adhère absolument, qui peut-être prenne une sorte de jouissance à parce qu'il y a cette dimension-là qui est pas trop exploitée, le côté dont on a beaucoup entendu parler dans les beaucoup de documentaires et de reportages sur le côté le jeu vidéo, prendre du plaisir à aller se comporter comme un guerrier dans ces pays-là, etc. On le voit pas. Ce qui manque aussi, c'est de montrer que si on quitte l'Angleterre pour l'État islamique, c'est pas que par naïveté aussi, en fait. Mmh. Il manque d'un personnage qui lui assume absolument et qui sache, en fait. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il n'y a pas une once de ça chez ces personnages. Ils ont l'air tous de tomber des nus quand ils arrivent là-bas, effectivement.
Oui, Joya.
Dis juste que les djihadistes ont le droit d'être des personnages des séries. Enfin, on peut faire ça, mais pas des mauvais personnages de série, quoi. Encore moins que les
autres.
C'est-à-dire,
on dirait ceux de 24 heures chrono ou d'Homeland, ils sont à peu près aussi caricaturaux.
Ah, moi j'aime bien Homeland, alors.
Non, mais c'est pas la figure des terroristes ou des.
Ah oui, mais
des
c'est ça le problème. Oui, c'est ça,
dans Homeland, c'est quand même pas d'une grande complexité, c'est ça que je veux dire.
Ça reste parce qu'on reste dans on les regarde comme de l'altérité pure, comme s'ils n'avaient rien à voir avec nous.
L'inhumain.
Et voilà, on est dans le même point de vue, au fond. En fait, c'est
pour ça que je fais la comparaison. Moi aussi, j'aime beaucoup Homeland.
Mais Homeland nous parle d'autre chose que simplement du terrorisme. Non, alors que là,
la figure du terroriste dans les séries, disons, anglo-saxonnes, mais françaises aussi, c'est le cas dans le Bureau des légendes qu'on aime bien, mais on ne peut pas dire qu'il y ait une réelle complexité des figures ennemies non plus.
Non.
C'est le plaisir du mal, le plaisir du méchant avec son grand couteau qui va égorger les gentils. Quoi.
Surtout, ça s'appelle The State, donc c'est censé quand même nous montrer la constitution d'un État, enfin, on peut l'imaginer. Quoi. Et or, on se dit vraiment que l'État islamique, ils vont jamais y arriver. Quoi, parce que c'est une sorte de club de vacances où on maltraite les gens au bout d'un moment, mais on ne sait pas trop pourquoi. Leur champ, en fait, n'est pas du tout problématisé à aucun moment. C'est évidemment un choix narratif fort, mais il tombe complètement à plat, ce choix.
On s'arrête là-dessus, Iris Bray ? On s'arrête sur The State. Bon, je ne suis pas sûr qu'on ait donné beaucoup envie de le regarder, mais vous savez un peu ce que nous en pensons. The State de Peter Kosminski, disponible en VOD sur Canal+, jusqu'au 29 octobre.
France Culture.
La Dispute.
Arnaud Laporte. Get the right.
Et le troisième temps de cette dispute consacrée ce soir aux séries est consacré à The Deuce, série forcément événement, puisque signée par David Simon, le créateur de The Wire, et Georges Pelecanos, l'un des auteurs de The Wire, mais aussi de Tremé. The Deuce qui s'intéresse à des frères jumeaux, Vince et Frankie, interprétés donc par le doublement omniprésent James Franco, dans le New York pas encore aseptisé par Rudy Giuliani, puisque l'action se passe au tout début des années 70. Autre personnage important, ô combien, la prostituée sans Mac, Candy, interprétée par Maggie Gyllenhaal. Ils vont se retrouver impliqués, ça c'est ce qu'on nous disait au départ, pour nous vendre la série, dans l'essor de l'industrie de production de films porno. On va voir que c'est un petit peu plus compliqué que ça.
Hey, baby brother. You still betting? Winning.
James Franco.
See how long that lasts.
Maggie Gyllenhaal.
You could do what they do.
I know I could, but would I?
I wouldn't want to make you feel like the thing.
You're smarter than you let on.
Who's your man?
No man, just me.
How's that work?
You gotta work a little harder. You gotta be a little more careful.
I'm running a legitimate business here.
The center of things now. I'm building something.
There's been a change in the law about community standards.
What about community standards?
Apparently, New York has none.
Scary world out here, babe.
Go home if you stay or die.
There's gonna be an opportunity coming your way.
All I can say is it's gonna be good.
What am I looking at?
The future.
When do we start?
The Deuce, saison 1 inédite en septembre sur City Génération HBO.
En effet, c'est en septembre et ça a commencé. Deux épisodes pour l'instant diffusés, puisque en France c'est le US plus 24, comme on dit maintenant. Alors moi je me suis mis au rythme des vrais téléspectateurs. J'en ai vu deux. Pour l'instant, il en reste 6 à découvrir. Alors, les uns et les autres, je vous ai demandé avant l'émission, vous avez vu plus, voire beaucoup plus, voire 7,5 sur 8 pour Olivier Joyard. Et quand même, c'est particulièrement incroyable comme score. Mais bon,
je suis arrêté à la mi-temps du dernier épisode.
Ça, c'est quand même quelque chose. Bon, alors, Romain Burel, qui voulait parler de tungstène, je crois.
Oui, non, parce que c'est d'abord que la série est excessivement belle. C'est vraiment
excessivement,
très, très
ça veut dire trop. Donc
non, elle est vraiment très très belle.
Très belle. Mais excessivement, ça voudrait dire qu'elle est trop belle. Méfiez-vous.
Il y a des plans qui sont composés, qui sont vraiment magnifiques. On est dans un New York des années 70, restitué, quoi. C'est très très beau. Ça m'a fait penser au Mean Street de Scorsese. Ça m'a aussi fait penser à Vinyl, la série de HBO qui était produite par Scorsese, effectivement.
Enfin, on retient le pilote, c'est le seul intérêt de Vinyl. C'est un film de Martin Scorsese.
Je serais pas d'accord, mais en tout cas, c'est vraiment très 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 beau. Ce que j'aime surtout dans la série, c'est qu'elle nous parle pas tant que ça finalement du début du porno, comme effectivement nous l'avons dit au départ, mais plus d'une rue et d'un moment de contraction de New York entre l'explosion immobilière, début effectivement de l'apparition du porno, prostitution industrialisée. Et c'est vraiment très très malin. Il y a énormément de personnages. À commencer par le personnage de James Franco qui en joue deux. Que je trouve souvent très très agaçant, mais que là j'adore absolument. Mais que même s'il y a beaucoup de personnages, la caméra se faufile entre eux. C'est pas saccadé, on passe pas de l'un à l'autre. C'est assez bien fait. Et un des prismes entre tous ces personnages, c'est donc Vincent, un des deux frères qu'incarne James Franco, et qui nous sert un petit peu comme ça pour nous balader dans la série. Et c'est vraiment très très prenant.
C'est lui qui a droit au travelling dans le New York reconstitué, devant lequel on doit être bouche bée. On est bouche bée. Bon, après, on aime bien regarder marcher James Franco, mais est-ce que ça suffit ?
Oui, parce que bon, d'abord, c'est pas lui qui il sert un peu de porte entre tous ces personnages-là, mais en l'occurrence, moi, ce qui est vraiment touchant, c'est comment en fait le corps de la femme est vraiment le cœur de la série, c'est-à-dire comment elles sont utilisées, comment elles se considèrent elles-mêmes, comment elles sont prendre conscience de leur éventuellement de leur valeur marchande et de décider de pas être exploité, c'est le cœur de la problématique autour du personnage donc de Candy interprété par Maggie Gyllenhaal. C'est intéressant de voir que elle incarne un personnage qui a donc existé en fait, qui s'appelait je crois Candida Royale.
Les frères jumeaux aussi ont existé.
Ouais, et ce qui est vraiment intéressant c'est de voir ça, c'est de voir comment elle va éviter, elle ne veut pas avoir de pimp, elle ne veut pas avoir de macro qui s'occupe d'elle, elle veut s'occuper elle-même, elle veut gérer sa vie, elle a un petit côté comme ça auto-entrepreneuse qui est assez touchant.
Elle sent le RSI, heureusement pour elle.
Oui, mais c'est vraiment ça qui est vraiment bluffant dans la série, c'est comment ce corps qui est jamais sexy, d'ailleurs, moi je trouve que c'est une des bémols que je vois dans la série. C'est vraiment, on est sur le corps assez triste.
Bah, au contraire. Bah,
c'est ça qui est justement intéressant. Bah,
c'est là que c'est juste, Romain.
Je pense que le porno, ça peut aussi être quelque chose qui, enfin, je trouve la série pas
attends,
très.
Attends l'épisode 7.
Attendez.
Que j'ai pas encore vu. Mais je trouve que ça manque un petit peu, en tout cas, de sexiness.
Sexiness. Bon, parlez français. Et vous arrêtez de tutoyer Romain Burel. Vous le faites dans le couloir, mais pas dans le studio. Deuxième avertissement pour Yves. Pour la rentrée de l'école, ça va pas du tout.
Ça va pas du tout.
Bon, mais parce qu'il a dit une énormité.
Voilà, c'est ça. On s'est sorti comme ça. Parce que je trouve que justement, ce qui est intéressant, c'est de parler de prostitution sans rendre les corps de ces femmes érotiques. C'est-à-dire de refuser de rendre un corps de prostituée érotique, même dans les scènes où elles font l'amour, et de vraiment voir ça comme un travail et la labeur. Je trouve que c'est extrêmement réussi, puisque finalement, ce qui est génial, et c'est ce qu'on avait déjà dans The Wire, et c'est vraiment le grand plaisir qu'on a à prendre en regardant les épisodes de cette série, c'est qu'il ne se passe pas grand-chose. Mais c'est que, en regardant juste un endroit, en se focalisant sur une rue, la 42e rue, en entrant dans toutes les impasses, en entrant derrière les portes, des bars, des souterrains, de ce qui se passe derrière, dans une allée, on a tout un microcosme qui raconte tellement de choses. Et finalement, les intrigues entre les uns et les autres, elles sont là, on s'y intéresse, mais finalement, c'est ces personnages qui sont absolument incroyables, et c'est même New York en tant que personnage aussi, et ce personnage de Candy, qui, à mon avis, est vraiment ce qu'on retient même au bout de cet épisode.
Même au bout de deux. Hein.
Voilà, elle a une présence absolument incroyable, et puis ça raconte autre chose que l'industrie du porno, ça raconte finalement comment est-ce qu'on prend sa vie en main, et même quand on vend son corps, et je trouve que c'est, même si ça se passe dans les années 70, il y a des résonances folles avec tous les discours aujourd'hui autour de la prostitution et du corps des femmes, et donc c'est une série incroyable.
Voir des comédiennes.
Oui,
enfin, il y a plein de résonances à tout niveau.
Et d'ailleurs, l'actrice est aussi productrice.
Bien sûr.
Donc ça dit aussi quelque chose d'extrêmement contemporain, en fait, sur le moment.
Olivier Joyard sur The Deuce.
Ouais, c'est la question de l'aliénation et de l'émancipation et comment ça circule de l'un à l'autre et comment ça peut se résoudre et comment on peut avoir du pouvoir dans une situation qui nous met a priori en état de faiblesse. Donc ça, c'est ultra contemporain, comme le disait bien Iris à l'instant. Et moi, j'ai eu un tout petit peu peur en entrant dans la série parce que David Simon est quand même une idole personnelle. Bon, je suis pas le seul, hein, mais il a quand même fait l'une des plus grandes séries de l'histoire. Il a été la séduction en fait de The Deuce, c'est-à-dire la musique Curtis Mayfield, générique magnifique, les fringues, tout est parfait, on rentre dans quelque chose de... Et moi, je me suis dit, au fond, j'ai pas du tout envie qu'on me parle de ça. C'est-à-dire que ce décor-là, j'ai envie qu'il disparaisse presque de mon imaginaire et que je me concentre uniquement sur les peaux, sur l'intérieur de ce qui se passe à l'intérieur des cerveaux et des crânes. Et c'est cette petite crainte que j'ai eue qui s'est assez vite dissipée, ce qui fait que c'est ça que j'adore chez David Simon. Moi, je me rappelle, The Wire, j'avais vu deux épisodes, trois, et j'avais arrêté pendant 3-4 mois. J'avais trouvé ça, je me suis dit, mais de quoi il parle? Je comprends rien. Enfin, on sait pas qui est qui. On a et au bout du quatrième épisode, il y avait cette scène où deux policiers disaient fuck, fuck, fuck pendant 10 minutes. Le seul dialogue pendant 10 minutes, c'était ça. Je me suis dit, ah d'accord, là, je crois qu'il y a une grande série. Là, j'ai pas eu cette scène-là spécifiquement. C'est plutôt à travers le personnage de Candy où je me dis vraiment que l'on est dans une accroche émotionnelle et romanesque folle, et je me dis surtout qu'il a de la suite dans les idées quand même, hein, parce que évidemment son sujet c'est l'Amérique, c'est l'aliénation, c'est comment c'était en gros The Wire, c'était une série contre la guerre contre la drogue, qui disait que la guerre contre la drogue elle a échoué. Là, je sais pas exactement, on peut pas dire que ça parle uniquement de la prostitution ou du porno.
Non, mais ça parle du libéralisme, ça parle de...
Voilà, c'est ça, qu'est-ce qu'on marchandise, comment on s'émancipe de la marchandisation, comment on en joue, c'est le sujet typiquement américain,
bien
et
sûr.
C'est très puissant. Et en même temps, derrière tout ça, il y a quelque chose d'extrêmement noir, c'est-à-dire, il a de la suite dans les idées quand même, parce que le générique de Tom Waits, là, dans The Wire, c'était... Down in the hole, keep the devil down in the hole, ça veut dire laisser le diable dans son trou, quoi, en gros. Et là, dans la chanson de Curtis Mayfield du générique, c'est s'il y a l'enfer en dessous de nous, on va tous y aller. Donc, c'est presque plus pessimiste que The Wire, que c'est de se dire on est déjà en enfer.
Parce que le monde s'est pas arrangé depuis
c'est ça.
The Wire.
Sauf que ça parle du monde d'avant, c'est ça qui est assez stupéfiant. C'est qu'on a l'impression qu'il nous parle effectivement de 2017, comme il parle de 1971, avec la même aisance. Et puis.
Et comme il parlait des années 80 dans Show Me a Hero, dont on avait parlé ici, qui est quand même une mini-série assez exemplaire aussi.
C'était magnifique.
Hein, magnifique.
Ouais.
De même David Simon.
Et là, et donc voilà, moi je suis un peu moins positif sur le personnage, sur les deux personnages de James Franco.
Ouais, surtout qu'il n'y en a qu'un vraiment qui existe.
Alors, dans la deuxième partie de la saison, ça commence à se structurer
d'accord,
un peu.
Parce que pour l'instant, dans les deux premiers épisodes, il y a le gentil, on va dire, le travailleur,
c'est ça.
Le débrouillard.
Ça continue à être cette figure-là de ces deux hommes qui s'opposent et qui sont si proches. Bon, ça, c'est, je sais pas, ça me fait pas rêver complètement du point de vue romanesque. C'est vraiment Candy qui me fait rêver. Il y a une phrase extraordinaire dans un épisode qui ne va rien vous spoiler. Enfin,
il veut le cacher.
Un personnage lui dit, ah, je savais pas que t'avais jamais dit que t'avais un frère. Et on lui dit ça, et moi je trouve ça magnifique, parce qu'au bout de 7 épisodes, on se dit, ah oui, elle a un frère, moi non plus, j'y avais pas pensé. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que j'ai envie de connaître d'elle, que je ne connais pas, que je vois pas? C'est ça qui est beau, vraiment, dans le... C'est du néoclassicisme de la série. Aujourd'hui, on est dans les séries très mentales, géniales, comme Twin Peaks, je trouve, ou Legion, des choses comme ça, un peu moins. Ou Handmaid's Tale, qui est extrêmement sur l'expérience, comme ça.
Intérieure.
Ouais. Mais et là, il y a quelque chose de l'ordre de la... Toute la société se joue dans les corps. Enfin, c'est vraiment très beau.
Oui, parce que je ne veux pas jouer l'opposition avec The State et laisser ce pauvre Peter Kosminski tranquille. Mais alors là, s'il y a une chose qui est riche dans The Deuce, c'est l'intériorité. C'est vraiment la façon dont on peut pénétrer dans le cerveau, pour le coup, dans le vécu, enfin, dans le ressenti, presque de chacun des personnages. Bon, cette Candy en tête, qui est vraiment, même en 2 épisodes, c'est elle qui se détache évidemment, parce qu'elle est fragile et forte, parce qu'elle est blessée et qu'elle est guerrière. Enfin, c'est un personnage extrêmement intéressant. Mais moi, j'aime bien aussi les, je sais pas si on les voit beaucoup après, mais les policiers qui sont là, notamment un policier noir et un autre.
Si je peux juste me permettre de rajouter quelque chose par rapport à ça, c'est vrai que ça me fait penser à Engrenage. Pour le coup, la comparaison, elle est un peu en défaveur d'Engrenage, ce qu'on en parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est vraiment flic et voyou, le même monde, ça circule tout le temps, alors et c'est... le point de vue de chacun est respecté. Ouais. Et même, et ça, moi, je trouve ça vraiment, ça a toujours été le grand point fort de David Simon.
De pouvoir effectivement voir des scènes assez incroyables où les policiers prennent la commande des prostituées qui viennent de rafler, quoi, parce qu'il faut bien qu'ils le fassent chaque semaine, mais quand même ils vont tous aller manger chinois ensemble. Donc c'est vraiment ça, c'est David Simon, c'est la comédie humaine. Alors on parle beaucoup de Dickens, on peut parler de Balzac aussi. On est quand même devant un univers extrêmement riche, extrêmement foisonnant, et on s'intéresse quand même à tous, parce que même s'il y a... Moi, j'ai eu un tout petit peu peur aussi pendant le pilote, qui dure quand même 1h20, qui donne un ton. J'ai eu peur d'une sorte de vernis de mauvais Tarantino sur le dialogue des deux Macs, avec le côté clinquant, cette musique dont vous parliez. Tarantino, ça peut être très 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 bien. Je ne critique pas ici Tarantino, mais ces épigones qui se disent, on va faire une situation avec on va mettre deux Macs qui parlent de Nixon et de la guerre du Vietnam, et ça va faire une bonne scène. Ouais,
les macros sont philosophes, hein. Ouais, ils parlent.
Ouais,
ils
mais c'est une j'ai eu un petit peu peur au début, parce que je trouvais que c'était quand un peu voilà, bigger than life, pour parler comme vous anglais. Iris Bray.
je trouve que justement ce qui est intéressant dans ces séries, c'est que le pilote va peut-être repousser beaucoup de personnes, je pense, et c'est un peu ça David Simon, c'est-à-dire qu'il faut vraiment...
Ça se mérite.
Oui, ça se mérite, vraiment ça se mérite, et je pense que là on n'a qu'une envie, c'est de voir la saison 2, et c'est vraiment comme The Wire, c'est-à-dire que on a envie de rester avec ces gens, et pour moi, en fait, ces personnages-là, ils n'ont pas tellement de psychologie. J'ai pas l'impression d'être forcément dans leur tête. J'ai l'impression que c'est... j'ai l'impression, oui, que c'est autre chose. C'est-à-dire que on a l'impression de les connaître intimement, mais non pas parce qu'on révèle des traumas de leur passé ou que dans un dialogue, ils vont expliquer pourquoi ils sont là.
C'est là que c'est fin.
Bah oui, c'est là que c'est génial. Mais c'est, mais c'est juste.
Bah, si on nous l'explique, qu'on nous prend pour des demeurés. Donc David Simon, il a la bonté de ne pas nous prendre pour des idiots.
Oui, mais la plupart des rôles de prostituées, on cherche souvent à raconter un trauma initial.
On dit la même chose, en fait. Cyril,
exactement, on dit la même chose. Mais c'est juste, voilà, j'ai l'impression que ça va. C'est beaucoup plus fin que ça. Et Candy, de représenter déjà une prostituée dans ce personnage-là, je trouve qu'évidemment, on ne va pas être dans le réalisme de ce qui se passe aujourd'hui et dans le quotidien des prostituées, mais c'est quelque part la force et le courage de dire, tiens, je vais vous montrer une autre façon de vouloir vendre son corps, et ça va avoir d'autres répercussions. Et justement, de montrer la prostitution à certains moments, quand Candy, je ne veux pas divulgâcher, mais va se poser la question de est-ce qu'il faut être devant ou derrière la caméra, devant le regard de l'homme ou finalement avec le regard de l'homme. C'est dans ces moments-là où, en fait, où la série décolle totalement. Donc aller jusqu'au 7e et au 7e et demi, c'est vraiment c'est quelque chose qui devient de plus en plus savoureux à chaque épisode.
Et riche.
Absolument riche, très riche.
Confirmé Olivier Joyard.
Oui, il y a un appel d'imaginaire constant, en fait, avec cette série. Moi, j'aime beaucoup comment ils traitent le son, par exemple, des scènes de rue, ou même... c'était déjà très présent dans The Wire. Ouais. On entend toujours, au fond, là, c'était plutôt les appels pour la drogue dans The Wire, dans les corners. Là, c'est la vie de la rue. Et on se dit, au fond, ce qui est très beau, moi, je trouve, c'est qu'on nous raconte cette histoire, et on aurait tout aussi pu diriger la caméra à 5 mètres à côté et raconter une toute autre histoire, parce qu'il y a ces murmures-là, et on nous dit qu'il y a quelque chose qui vit en dehors de nos personnages et qui font partie de ce monde-là, et qu'on va finalement peut-être ça va nous prendre 10 ans pour comprendre tout ce qui se passe. Moi, je trouve ça vraiment beau.
Bon, on attend la saison 10. Romain Burel, le dernier mot sur The Deuce.
Peut-être un petit mot sur James Franco.
Ouais.
C'est marrant quand cet acteur.
Mais moi, il me replaît de plus en plus. Voilà. C'est marrant, moi, cet acteur. Moi, je l'avais aimé dans le Stephen King
aussi,
sur Kennedy.
Mais moi aussi. Bon, je le trouve un petit peu cabot. Mais
il a quand même un truc.
Mais cet acteur qui a décidé de vraiment de
pour
faire.
Pour le coup, il a un corps lui aussi. Hein.
Mais et voilà, c'est ça dont je voulais parler de cet acteur qui a décidé de faire du porno quasiment un de ses sujets de prédilection parce qu'il a joué dans énormément de films qui relevant de cette question-là, du porno gay ou du porno hétérosexuel. C'est assez intéressant. En plus, on voit son corps changer. Là, je le trouve à nouveau sexy, ce qu'il n'avait pas été depuis la série de Stephen King, en fait.
Ouais.
Je le trouve à nouveau attirant. Il y a vraiment quelque chose d'assez. C'est une des craintes que j'avais sur la série au départ, c'était de me dire ah là là, le casting, il est quand même très, 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 très glamour. J'ai peur qu'on soit un petit peu là-dedans. Et finalement, non, je trouve que Maggie Gyllenhaal a beaucoup de courage, d'ailleurs, je trouve, au niveau de la façon dont elle se montre. Là, pour le coup, James Franco, c'est peut-être la petite caution érotique, moi, qui me plaît le plus dans la série.
Ça y est, tu l'as trouvé. Bon, on apparaît toutes les qualités, hein, cette série de Deuce, de David Simon et Georges Pelecanos, qu'on n'oublie pas quand même, parce qu'ils sont à deux, c'est cette affaire. C'est sur OCS City en France depuis le 11 septembre. Et on conclut cette émission avec le jeu de la dispute et un rappel, Grégoire Desfiores, et de la question du jeu d'hier au soir d'abord.
En 1994, quel peintre présidait à l'installation de vitraux abstraits dans une église romane?
Et la réponse était
Pierre Soulages.
Et ce soir, des invitations à gagner pour la Biennale d'art contemporain de Lyon qui s'y déroule jusqu'au 7 janvier. La question:
quel artiste italien exposé à la Biennale a créé le spatialisme?
Votre réponse avec vos coordonnées postales sont à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations concernant cette émission sont à retrouver sur franceculture.fr à la page de la dispute, un site sur lequel vous pouvez également réécouter ou vous abonner au podcast de l'émission. Lundi à 19h, une dispute consacrée au spectacle vivant. On sera en compagnie de Marie-Josée Sirach, Jean-Christophe Briançon, Philippe Chevillet. Notre affiche, le Tartuffe de Molière, mise en scène Michel Foy avec Michel Bouquet, Grande de Thierry Acarival et Vim à la Ponce, et La mort de Tintagile de Maurice Metterlinck, mise en scène par Géraldine Martineau.